Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, le thème des nouvelles vagues est l'expérience. Aujourd'hui, on vous propose de faire l'expérience d'une ville en marchant une heure durant, presque les yeux fermés. Ça commence. Ce week-end, le journal du dimanche donnait à lire un court entretien avec Éric Dupond-Moretti, avocat de David Roquet, poursuivi pour proxénétisme aggravé et escroquerie dans l'affaire du Carlton. En page 2, il disait « Soyons sérieux, ces hommes accusés sont avant tout des clients. Il s'agit d'une affaire de copains qui s'offrent du bon temps. » Et d'argumenter plus loin que si les juges lillois veulent vraiment s'attaquer à la prostitution, ils n'ont qu'à marcher 200 mètres depuis le tribunal pour en trouver une, je cite, « bien plus triste ». Sous-entendu, sous prétexte qu'il y aurait des prostitutions plus ou moins glauques, il faudrait ne pas trop charger la barque judiciaire de « bons copains » qui ont de quoi s'offrir du bon temps, je cite, « dans des bons hôtels avec des bonnes filles payées cher ». Même en oubliant de qui on parle, même en faisant abstraction des implications politiques de cette affaire, le coût des bons copains et du bon temps, c'est quand même très limite. Vous écoutez France Culture, il est 16h passé de 1 minute et c'est l'heure des nouvelles vagues. À la fin de l'émission, les nouvelles vagues passent au singulier. Chaque jour, pour cette rubrique, nous écoutons quelqu'un raconter un moment marqué par une émotion forte. C'est Rachel Tanguy qui se prête à l'exercice jusqu'à demain. Elle est coordinatrice pédagogique au centre Sésame qui propose à des jeunes gens de 16 à 25 ans plusieurs axes de formation sur plusieurs mois, plusieurs années. Aujourd'hui, elle évoque sa lecture marquante du livre « Pays de malheur ». C'était un échange entre Younes Amrani et Stéphane Beau, paru en 2005. C'est à cette occasion qu'elle décide de mettre en place dans son centre des ateliers de sociologie. Objectif, se munir de tous les outils possibles. Vers 16h45. Il y a quelques années, aux États-Unis d'abord, et puis en Europe, ce monde des laboratoires de biologie, souvent attenant à des lieux de hack, pratiques informatiques et technologiques difficiles à traduire en français, mais ce serait genre de bidouillage en moins enfantin. Bref, des laboratoires de biologie qui entendent partager du matériel, des connaissances, des savoir-faire et ouvrir l'accès aux sciences au plus grand nombre. Évidemment, toutes sortes d'utopies sont au cœur de ces projets, de ces lieux, qui pour autant ne vivent pas en dehors du marché et des contingences économiques. On écoute Morgan Meyer, l'un de nos invités d'hier, évoquer ces nouveaux lieux.
Peut-être ces lieux, ce seront dans quelques années, des lieux privilégiés dont la transmission des connaissances scientifiques, des lieux où on va peut-être aller recruter des personnes intéressées à la science, où peut-être il y aura de plus en plus de partenariats avec les musées des sciences, avec les universités, donc on peut s'imaginer plein de choses. Après, je ne suis pas tout à fait convaincu du fait que ce soit une bulle qui serait un peu déconnectée des modes de production des connaissances. Et je dirais, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de reconfiguration entre peut-être le public et le privé, entre les citoyens et les professionnels. On dit que c'est une science citoyenne, c'est une science qui est ouverte un peu à tout le monde. Mais après, si on fait des sondages, comme ça a été fait, on trouve quand même des gens qui ont des formations scientifiques, qui sont étudiants en biologie, ou des gens qui viennent de la bioinformatique. Donc je dirais que c'est une science citoyenne, certes, mais en devenir et en construction.
Thank you.
David Jacoboviez réalise l'émission cette semaine. Il choisit de vous faire entendre ce morceau 10-4-1 d'Aphex Twin. Il s'agit d'un extrait de son récent EP Computer Controlled Acoustic Instruments Part 2, sorti après 10 ans de gestation. Ce morceau fait jouer un piano préparé et une batterie, donc a priori contrôlée par un ordinateur. Aphex Twin, que l'on croit reconnaître ces derniers jours sous le profil user, je vous passe tous les chiffres derrière, de la plateforme SoundCloud. Il y posterait des dizaines de morceaux inédits et gratuits par jour. Avis aux oreilles curieuses qui ont du temps, il y a de tout. Vous écoutez les Nouvelles Vagues sur France Culture, il est 16h, passé de 7 minutes, c'est le quatrième moment d'une semaine entièrement consacrée à l'expérience. L'expérience est ce qui a eu lieu, même quand on est en mesure d'en douter, c'est ce que l'on perd et qui rend questionnable sa mise en mots. L'expérience, c'est ce qui est inéluctablement derrière nous, c'est aussi ce que l'on cherche à transmettre, ce par quoi l'on accède à la connaissance ou à l'innovation. Voici à peu près les grands axes qui furent les nôtres ces trois derniers jours, et aujourd'hui, nous faisons l'expérience d'une ville, en l'occurrence pour moi, celle d'Aubervilliers, au printemps dernier, il me semble, au nord de Paris. Il faisait beau, j'en connais quelques grands axes de cette ville, le métro, les quatre chemins, les boutiques, le carrefour souvent chargé, les vendeurs de Marlboro. C'est au départ des laboratoires d'Aubervilliers, qui est un lieu de recherche et de diffusion de différentes pratiques artistiques. Je vais, au bras de Myriam Lefkovitch, pendant une heure, arpenter la ville, les yeux fermés, à l'exception de rares moments sur lesquels nous reviendrons. Les sons, les sensations de lumière, les voix, les passages de corps, les passages de voitures, les silences, les odeurs, tout ceci s'accentue et donne lieu à une impression de la ville à même le corps, une autre façon de la raconter, une expérience très marquante. Myriam Lefkovitch, vous menez cette expérience depuis plusieurs années dans différentes villes, on peut citer donc Aubervilliers, Buenos Aires, New York, Vilnius. Ce projet s'appelle Walks and Eyes City et il est pensé pour un spectateur et un guide. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Souvent vous êtes présentée, ou vous présentez vous-même comme une artiste chorégraphique qui a à voir avec la chorégraphie. Est-ce que c'est par le mouvement que vous avez imaginé cette façon d'arpenter les villes au départ?
Ouais, c'est une bonne question. J'ai appris à danser. Donc mon apprentissage, mon savoir, il est lié à la danse. Je pense que la balade que vous avez expérimentée, elle pose la question du rapport entre voir et bouger. Donc avant d'être une pratique dans les villes, je crois que c'était une pratique de studio où je me suis vite rendu compte, à force de danser, qu'en fait j'avais un rapport beaucoup plus scopique au mouvement. Je bougeais pour voir. Donc je pense que c'est comme un mécanisme qui, après, c'est... à glisser dans la ville et à produire cette balade.
Ce sont des balades que vous écrivez à l'avance? Est-ce que vous avez des passages obligés dans une ville? Est-ce que vous-même, vous vous promenez beaucoup dans la ville avant de savoir par où vous allez mener les spectateurs?
Non. En fait, je crois que c'est la balade elle-même qui produit son système de coordination. Donc ça passe pas par un repérage, ça passe par cette relation très spécifique, silencieuse, de peau à peau avec quelqu'un, de variations très très légères et subtiles de rythme. Et c'est cette relation en fait qui me tient et qui me permet d'aller découvrir, fouiller. C'est vraiment l'idée qu'il y aurait comme des strates à l'intérieur desquelles on fouille dans une ville. Mais si l'autre n'est pas là, je crois que je n'ai pas autant d'attention à l'environnement que je traverse. C'est vraiment la relation qui produit ce mode d'attention très particulier.
Comment vous la décririez, cette relation? Moi, je me souviens donc que ça passait plutôt par la main ou parfois même juste un corps côte à côte. Il faut dire que le spectateur a donc, on parlera des moments où il n'a pas les yeux fermés, mais la plupart du temps, il a les yeux fermés. Mmh. Comment vous décrivez ce que vous mettez en place par le corps avec celui que vous guidez?
Je pense que ça a beaucoup à voir avec cette idée de la peau. C'est-à-dire que c'est comme une adresse, c'est un toucher qui s'adresse à la peau, comme système sensoriel qui va en fait être une interface de communication. Donc cette peau qui est vraiment l'interface avec l'extérieur, qui fait qu'on est sans arrêt touché, même avant la main, on est touché par l'air, la chaise sur laquelle vous êtes assise. Et là, ce qu'on fait, je crois, c'est qu'on s'adresse à la peau comme une toile qui viendrait créer la relation. Donc elle est... Oui, elle est comme, je ne sais pas comment dire, intersubjective, cette relation. La peau n'est plus une limite, mais devient un espèce de... Ouais, de lieu poreux. En fait, c'est très, très poreux.
À qui vous envoyez des signaux à ce lieu poreux qui peuvent dire, qui peuvent par exemple suggérer des accélérations, des ralentissements, des virages? Est-ce que c'est un code que vous avez travaillé dans sa précision?
Oui, je crois que c'est la pratique elle-même qui a produit ce code. Je savais très peu ce que j'étais en train de faire. C'est peut-être ça, la notion d'expérience, c'est que c'était pas du tout programmatique, c'était pas un plan.
C'était il y a déjà
6-7 ans, et je voulais montrer un endroit à une amie la nuit. C'était comme aller jouer dans le jardin quand on est enfant. Mais cette découverte de ce toucher touchant, elle est venue au fur et à mesure aussi dans la transmission. Je me suis retrouvée à devoir passer...
Former des guides.
Ouais, former des guides. Et du coup, devoir identifier et qualifier le type de toucher qui était utilisé. Et je pense que c'est vraiment cette histoire de la peau comme connectique. Donc ce qu'on vient faire, c'est associer le centre de la cage à l'extrémité du bout des doigts. Et on dessine cet espace sur le corps du receveur, spectateur, mais aussi sur le nôtre. Donc c'est une main qui tisse une toile pendant l'heure. Et qui vient aussi sans arrêt signaler notre présence, mais aussi en fait dessiner la présence en peau de l'autre. Donc je crois que ce qui crée la possibilité d'y aller les yeux fermés, c's qu'on a un support en fait incroyable qui est cette enveloppe
du guide créée par le guide.
Créée par le guide, mais qui est déjà là. Je veux dire, c'est à la fois on n'invente pas la peau, on la signale comme l'espace de la relation, non seulement avec nous, mais aussi avec la ville. Avec l'air, avec le bruit, avec toutes les sensations et les différentes textures qui sont offertes par l'environnement urbain.
En fonction des personnes que vous avez guidées, il vous a semblé devoir être plus ou moins présente à la main, au toucher, au support, dans le fait de signaler plus ou moins à l'autre qui pouvait y aller?
Oui, c'est une négociation. Je crois que c'est vraiment l'idée que ce savoir de la danse, qui est en fait un savoir kinesthésique, on apprend à sentir. On apprend qu'on est peau, on apprend qu'on est volume, on apprend que ce volume, il modifie l'espace qui nous entoure. Tout ça, c'est comme si on cherchait pendant une heure à faire passer cette compétence à un corps qui est plus ou moins équipé,
sensible à ça,
et qui peut avoir déjà une histoire de ça par tout un tas de pratiques autres que la danse. Mais... ça se négocie, et c'est, je crois, l'idée de la répétition aussi de cette balade qui me tient depuis 7 ans maintenant. C'est à chaque fois qu'on part, on ne sait pas à quel endroit on va pouvoir tisser cette toile. Est-ce que ça va être... Oui, c'est plus ou moins possible. Et donc, des fois, ça résiste. Moi, j'ai fait des balades en slow motion total, où le corps peut très, 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 très difficilement avancer. Des balades où ça court tout de suite.
Il y a des balades où des corps de guidés vous ont vraiment résisté? Des corps que vous n'avez pas pu guider d'une certaine manière dans la vie?
Oui, il y a des... Ça a été terrible, c'est quelques expériences. Il y a maintenant plus de 1000 personnes qui ont fait cette balade et il y a quelques fois où le corps résiste vraiment très fort et c'est comme pousser quelqu'un dans un monde où il ne veut pas aller.
Et vous le faites?
Le problème, c'est que la règle, c'est s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, vous me le dites. Vous pouvez arrêter à tout moment. Moi, je propose une fin, mais si pour la personne, c'est fini avant que je propose, il a la possibilité de le dire.
Vrai.
Si moi, je désigne la fin avant, ou au bout de 5 minutes, je dis « je pense que ce n'est pas possible pour vous », c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme signaler à la personne qu'elle n'a pas été capable de le faire. Donc peut-être elle le fait. Et elle le fait en résistant, mais elle le fait.
Donc vous allez au bout, finalement. La règle que vous donnez, c'est que vous allez au bout de l'heure. Si on ne vous demande pas d'arrêter avant.
Oui. Oui, il y a eu quelques personnes qui ont dit, après une demi-heure, ça va maintenant, c'est trop.
Moi, j'ai failli, je me rappelle. Enfin, pas une demi-heure, mais vers 45 minutes.
Et vous sauriez dire qu'est-ce qui faisait que c'était fini?
J'y reviendrai.
Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder, et qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ces causeries qu'il est dans une large mesure ignoré de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée.
Toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée. C'est la voix de Merleau-Ponty dans une archive d'octobre 1948. C'est l'heure de culture française sur l'ORTF et c'est sur la philosophie de la perception. Ce monde de la perception qui est pour lui mis à nu par la pensée et par l'art. Alors lui fait remonter ça au début du XXe siècle. Évidemment, quand il commence par dire le monde humain, c'est le monde visuel, ça nous ramène à ce que vous disiez au départ, à savoir je dansais pour voir, je me déplaçais ou je bougeais dans l'espace pour voir. Dans ce cas, pourquoi faites-vous fermer les yeux au guidé dans les balades?
Je crois qu'il y a différents types de voir. Donc, ce que j'essaye de travailler, c'est un rapport à la vision qui ne serait pas juste une reconnaissance, une identification de ce qui est là, qui passe en plus par tout un système interprétatif, etc. Dans le voir que moi je cherche, ce serait quelque chose de l'ordre de l'apparition du visible. Et je sais que c'est, on n'y arrivera jamais, mais le passage aux yeux fermés permet, en fait, au moment de l'ouverture, de se prendre une image dans les yeux. Et je crois que les schèmes en fait, de reconnaissance sont si rapides que ma réponse a été de dire qu'est-ce qui se passe si on arrête de voir un temps et au moment où on ouvre, comment on revoit l'image.
Et donc je pense qu'on l'a, tout le temps...
Oui, c'est plus comme si on la prenait au lieu de la désigner. Je crois que c'est comme un visible qui vient à la rétine plutôt que nous qui l'identifions comme déjà quelque chose. Il y a un chercheur en analyse du mouvement qui s'appelle Hubert Godard et qui parle du regard objectif, donc ce regard qui pointe et qui désigne comme un regard déjà névrosé, c'est-à-dire qui ne peut que voir à travers son histoire et sa mémoire. Et il parle d'un regard qui serait plutôt un regard aveugle, donc un regard volumétrique, géographique, qui ne passe pas par l'analyse et l'identification et qui, du coup, en fait, renouvelle nos perceptions. Et c'est cette idée de passer par un état presque de laver le perceptif pour réouvrir et peut-être avoir une autre expérience de la vision.
Puisque j'ai parlé de tous ces moments où on est les yeux fermés et donc on marche guidé par vous ou guidé par un autre guide que vous avez formé. Parfois, vous nous arrêtez par ces fameux signaux de peau que vous décriviez tout à l'heure. Et je ne me rappelle plus par quel principe, peut-être juste par la voix, non? Vous dites ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, fermez les yeux. Et donc, ça fabrique comme une photographie. Parfois, notre nuque est basculée de sorte qu'on regarde vers le ciel ou bien orientée de sorte qu'on arrive très très près d'un visage. Moi, je me souviens par exemple d'avoir pris dans la figure des images de visage, des corps près desquels vous m'aviez mené très proche. Ça va pour un bâtiment, pour un grillage, pour un brin d'air, pour une branche. Donc ça fabrique des sortes d'images comme ça. À partir de quand vous avez trouvé cette astuce de la photographie, justement, de ce qui nous arrive, de l'image qui nous arrive, comme pouvant ponctuer la balade?
Je crois que c'était à l'inverse. C'était le premier point, c'était ça, vouloir montrer des images. Donc c'est arrivé très très vite. Après, la question, c'était... comment composer une séquence d'images? Je voulais, c'était vraiment, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Je crois que la question de base, c'était un peu ça. De pointer le doigt vers quelque chose, de le montrer à quelqu'un. La question, c'est comment passer d'une qualité d'image à une autre, pour qu'en fait, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est tout le paquet d'images, le paquet de sensations, le paquet de mémoires qui vient s'infiltrer entre deux images. Et donc c'est cette fabrique qui va en fait irriguer l'image d'après et que moi je contrôle absolument pas.
Donc tout ce temps où on a les yeux fermés?
En fait je pense qu'on voit, Mais on voit dans un état de conscience, on peut dire modifié, par toute cette redistribution et cette réorganisation des systèmes sensoriels, on voit de la lumière, on voit des couleurs. Certaines personnes ont témoigné qu'ils ont vu des formes. Donc on voit. Mais, et on se rappelle, il y a, je crois, une sorte de... Quelqu'un m'a raconté que oui, il voyait la mémoire comme une série de tiroirs et que là, tout à coup, en fait, ces tiroirs s'ouvraient et que les mémoires commençaient à se balader les unes avec les autres de manière complètement différente que d'habitude. Et que tout ça irradiait l'image d'après. Et je pense qu'au-delà de la question maintenant de « est-ce que tu as vu ce que j'ai vu ?», c'est surtout « qu'est-ce que tu vois que moi je ne vois pas ?»
Pendant
cette
tout ce
image.
Temps où tu as les yeux fermés.
Oui, et du coup, comment tu perçois l'image d'après? Parce qu'il t'arrive tout un tas de choses que moi, dont j'ai aucune idée.
Mais que vous cherchez. Et là, on en revient à ce que disait Merleau-Ponty, à savoir cette idée du monde de la perception qui est mise à nu et qui est un savoir qui a été très longtemps dévalorisé par rapport à un autre savoir qui serait le savoir de la science, qui a des choses sérieuses à dire sur l'expérience que nous faisons du monde et nous qui avons des choses sensibles à dire et donc, entre parenthèses, éventuellement pas sérieuses à dire sur l'expérience que nous faisons du monde. D'un seul coup, en nous faisant fermer les yeux, qui est peut-être le sens en effet le plus direct tel qu'il est décrit par Merleau-Ponty, on abat une première barrière pour se brancher avec quoi? Quelque chose qu'on a moins l'habitude de manipuler? Qu'on a moins l'habitude... Ou peut-être envers lequel on a moins l'habitude d'être sollicité, valorisé?
Oui, par exemple, je pense que cette histoire d'enveloppe de peau, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de le noter, je crois. Et je crois que pour répondre à votre question, c'est comme si je cherchais des moyens d'être réveillée autrement. D'autres manières d'être réveillé, qui passe bizarrement par une sorte de suspension de l'intention. Donc il y a quelque chose en fait qui dort. Et le fait de ne pas être dans un rapport comme ça projectif à l'action, on n'a rien à faire, on n'a nulle part où aller.
On n'a pas de décision à prendre.
Et je pense que c'est ça surtout qui produit la grande résistance. C'est tout à coup de déléguer toutes les directions, toutes les directions du regard aussi.
La sécurité.
Oui, la sécurité. Et qu'on est complètement... qu'on n'est plus autodéfini. C'est là peut-être ce rapport d'intersubjectivité. On n'est plus seul, quoi. On est un ramassis de relations, pas seulement avec le guide, je crois, mais avec tout ce qui rentre de l'extérieur. Et je ne sais plus quelle était la question. Mais du coup, je crois, oui, qu'il y a des compétences dont on n'a pas besoin quand on est dans un rapport fonctionnel
à la vie,
qui tout à coup s'activent. C'est très variable, hein, selon les personnes, ce qui s'active. Donc, je ne pourrais pas dire ça travaille, je ne sais pas moi, l'ouïe. Ça travaille
l'odorat.
Le tactile, ça travaille l'odorat. Je crois que c'est plus complexe que ça. C'est tout le temps emmêlé, ce que ça travaille. Mais je crois que ce que ça produit, c'est des chaînes d'associations autres entre les systèmes sensibles, la pensée. Parce qu'en fait, les gens n'arrêtent pas de penser. C'est pas du tout ce truc que le sensible serait sans langage, pure sensation, je crois pas du tout. En fait, les trois quarts des personnes finissent en me disant « ça m'a fait penser à, je me rappelais que, je voulais te dire que ». Donc c'est tisser de langage en permanence. C'est juste une autre forme d'entendement.
Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit.
ce drôle de bruit. Je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonnés tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi. Réveillez-moi.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
Myriam Lefkovitch, il y a un instant, quelques minutes, vous disiez « je cherche une manière d'être réveillée autrement » et vous êtes absolument entendue par Claude Nougaro et cette merveilleuse chanson « Il y avait une ville ». Nombre de sensations et d'expériences de la ville liées aux rêves sont présentes dans cette chanson sublime qui permet d'interroger la manière dont s'articule dans ce que vous proposez le langage, la convocation même du poème, du langage poétique et de la sensation et de l'expérience vécue. Je rappelle pour juste les gens qui nous rejoignent qu'il s'agit donc de marches que vous permettez de faire à une personne, que vous guidez les yeux fermés dans une ville. Quelle est l'importance de la discussion qui a lieu après la marche et est-ce qu'elle a toujours lieu?
Non, elle a pas toujours lieu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout le désir de parler ou qui vont zoner pendant un temps, soit dans les centres d'art ou les lieux d'exposition, et qui au bout d'une heure reviennent. J'ai reçu des mails aussi après. Donc la parole, elle n'est pas forcément immédiate. Mais pour quand même les 80% de gens, oui, ça parle. Ça, on se met à parler, et je crois qu'il y a un... Déjà, il y a un retour à une interaction sociale plus usuelle, qui quand même souvent passe par la parole. On ne s'est pas parlé pendant une heure, la plupart du temps on ne se connaît pas, il y a eu un échange quand même assez intense d'un certain type de toucher, qui... bref. Et puis il y a un désir de témoigner de ce qui s'est passé, c'est peut-être là où ça fait expérience, c'est-à-dire que ça a produit une série d'effets inattendus, qui ont besoin d'être racontés. Donc c'est vraiment... je pense à une chose assez naturelle de raconter, bah, il m'est arrivé ça et ça.
Moi, je me suis retrouvée... la question, vous allez le chercher ou pas ce langage sur l'expérience qui vient d'avoir lieu?
C'est un peu un oui et non. J'ai l'impression d'être dans un rapport d'écoute. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas écouter. C'est presque de l'ordre de la responsabilité de celui qui t'a fait vivre ça, d'écouter si tu veux parler. Donc je ne peux pas faire comme si c'était rien, cette parole. Ce qui est sûr, c'est que dans les premiers temps, elle m'a permis de comprendre ce qu'était en train de se faire. Étant donné que ce n'était pas un plan, moi j'ai découvert le contenu et les capacités de cette expérience qu'elle était en mesure de nous faire faire au travers de ce que les gens ont dit. C'est quand même tous ces gens qui ont quelque part co-construit une compréhension de ce qu'était cette expérience. Et donc il y a des, on pourrait, je sais pas, les appeler des phénomènes quoi, qui sont ressortis et qui se répétitivement dans les paroles des gens.
Alors que, par exemple, si on se dit qu'il y a plusieurs grands axes dans la manière dont les gens rendent compte de cette expérience, avec évidemment le fait que chaque personne vivant chaque expérience singulièrement, ils disent évidemment des choses singulières à chaque fois, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes dans ce qu'ils disent?
Ouais, oui, j'ai l'impression que peut-être la grande ligne, c'est la dimension... C'est comme une activité proche du rêve. C'est-à-dire que les personnes se sont mises à reconstituer un monde à partir de fragments de réalité qu'ils avaient réellement perçus, qui sont dans la ville. Ils les ont sentis. À partir de ça, c'est broder, tisser une fiction, en fait. Donc, ce dont les gens ont témoigné, c'est une sorte de fiction d'espace. Quelque chose qui était tout à coup sans bord. Des limites, des murs, quoi, qui quand même caractérisent l'espace urbain dans lequel on vit, avaient sauté. Donc, ils décrivaient un désert où ils décrivaient des limites complètement poreuses, où ils pouvaient sentir qu'ils pouvaient passer à travers le mur ou que la voiture pouvait passer à travers eux. Donc là, on retrouve encore cette question de l'interface et des fictions de corps, où tout à coup, des gens m'oubliaient, où j'étais tellement une extension de leur propre corps que j'avais disparu.
Ah, vous oubliez vous en tant que guide?
M'oubliez-moi en tant que guide ou... On parlait du guide comme... Un type m'a dit une fois, oui, c'était comme si t'étais un de mes organes. Donc il y avait ce truc dedans, dehors, qui commençait complètement à se brouiller. Et puis des inversions, je pense, qui sont produites par la synesthésie, où des gens m'ont dit, c'était comme mes oreilles étaient les mains. Ou une géographie de l'attention très très haute. Donc des gens ont beaucoup témoigné du fait qu'ils avaient l'impression de flotter, de voler, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le même rapport gravitaire. Qui, je pense, ça est lié aussi au fait que les muscles sont très, très peu engagés parce qu'il n'y a plus d'intention. Donc, le corps produit très peu d'énergie musculaire parce que le muscle, c'est vraiment ce qui réagit au but. Si tout à coup, on bascule sur un système kinesthésique autre qu'est les enveloppes, ça flotte. Donc, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ces gens dorment. Et je crois que c'est cet allègement comme ça. C'est comme le paradigme de l'intention qui se suspend. Tout à coup, on est dans une attention, en fait, extrêmement flottante. Qui fait que le corps n'a plus le même... En fait, c'est le schéma proprioceptif, c'est la manière de se représenter son propre corps qui devient en fait plastique, je crois. Ça bouge. De la même manière que la ville, elle peut tout à coup s'étendre à l'infini, se rétrécir complètement. Donc les gens, d'un coup, m'ont dit « mais c'était comme passer sur une passerelle, je crois que j'allais tomber ». Donc, ils marchent dans un espace qui est en fait... Je sais pas, une production mentale à partir d'un élément perçu.
Ou de plusieurs éléments perçus.
Ou de plusieurs éléments perçus,
les
absolument.
Les odeurs, les mouvements, les
voilà,
lumières.
Voilà, c'est ça.
Et
c'est
les voix.
Ouais. C'est cette reconstitution qui fait que des gens tout à coup s'arrêtent ou se penchent, comme si le ciel tombait. Donc moi, je me penche avec et je sens qu'on marche dans l'espace, qui est juste une image produite.
Sauf mais que vous avez accès à la ville, évidemment, accès au sens où vous avez accès visuellement à la ville, et que vous n'êtes pas exactement dans la même suspension, vous n'avez pas exactement le même rapport à la gravité, ou bien l'atteignez-vous à côté de celui qui l'atteint?
Oui, je crois que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, à la fois, c'est vrai, on est occupé. On a
vous,
des choses à faire.
Guides.
Ouais. Nous, les guides, on est occupés. On doit composer cette séquence d'images. On a des règles de coordination dans l'espace. On doit passer par le plus d'espace hétérogène possible. Donc, on traque les portes qui s'ouvrent, on traque les parkings, on traque les hauteurs. On est en traque. Après, ce qui se passe, c'est que moi, je crois qu'il y a un phénomène d'empathie sensible qui gonfle au fur et à mesure de l'heure et que l'état dans lequel le spectateur-receveur glisse nous contamine complètement. Donc mes schèmes décisionnels, ils ne sont pas du tout les mêmes que si je suis réveillée, toute seule, en train de marcher dans la ville. Donc quelque part, moi je crois que maintenant, si je continue à faire cette balade, c'est que je sais que je peux m'accorder à l'état de l'autre. Et que c'est ça que je cherche, fondamentalement. C'est pas juste à le laisser glisser là-dedans tout seul, je crois. C'est qu'il m'en donne un peu. Pour que, en fait, et mes parcours d'attention sont constamment variés par la personne. Donc, je pense quand même qu'il y a des transferts de je sais pas quel bazar, mais je regarde jamais les mêmes choses selon avec qui je marche. Donc, c'est bien qu'à un moment où on se retrouve dans la même image de film, où la personne me dit oui, ça m'a fait penser aux ailes du désir, et moi, je pensais aux ailes du désir. Donc, il y a quand même une sorte de... Oui, c'est du passage d'images, de sensations, d'affects.
Jusqu'où ça a modifié votre propre relation à la ville ou expérience de la ville en dehors de ces balades? C'est-à-dire quand vous dites finalement je continue de faire ces balades dans l'espoir que l'état de suspension qu'atteint le guidé, on m'en donne un peu. Est-ce que c'est quelque chose de ce « on m'en donne un peu » que vous pouvez garder au creux de vous et reconvoquer, je ne sais pas, quand vous allez faire vos courses à Aubervilliers, à Paris ou à New York?
Oui, je crois que ça a généré des tics visuels. Pendant les premiers temps, je marchais sans arrêt avec mon regard sur le côté, à traquer les halls d'immeubles, où est-ce que je pouvais descendre dans un parking.
Comme si vous aviez quelqu'un guidé.
Oui, et comme si, je crois que ça correspondait à quelque chose de l'ordre de l'appétit du regard. Et ça a généré une certaine forme de pattern, hein, comme un schéma qui nourrissait mes yeux. Et sans même me rendre compte, c'est devenu presque une habitude. Après, je crois que cet état presque qu'on a appelé hypnose ou état modifié de conscience, ce truc d'une autre manière d'être réveillé, à force, on peut s'auto-induire ça. Je ne sais pas si c'est clair la phrase, mais oui, je crois qu'on peut glisser là-dedans très facilement. Et ce n'est pas grand-chose. C'est ça, en fait, je crois, qui m'a complètement fascinée au début. Je me dis, mais c'est si rapide. C'est comme où la transe peut être nommée chute dans certaines cultures. Et en fait, on glisse, on tombe très, très vite. Et je crois qu'une partie de l'apprentissage de la danse, c'est de se laisser tomber dans ce regard aveugle. C'est...
Le monde humain, c'est d'abord le monde visuel. C'est le monde du jour. Et c'est dans ce monde que nous voyons que nous avons d'abord nos objets précis. Et c'est par rapport à ces objets visuels que les autres données sensorielles, si vous voulez, viennent s'ordonner autour, viennent retrouver leur signification. Et la nuit, lorsque ce donné visuel nous fait défaut, à ce moment-là, nous sommes inquiets. Et nous nous demandons qu'est-ce que c'est lorsqu'un meuble craque, lorsqu'on entend un pas ou un cri. Nous avons là, à ce moment, un monde sonore qui n'est plus stabilisé, n'est-ce pas ? En quelque sorte catalysé par les données visuelles, et notre imagination se donne libre cours avec toute l'angoisse que nous verrons que cela peut receler.
François Bresson, c'est le Club d'essai, c'est une archive du 7 novembre 1951 qui parle de la désorganisation du monde visuel, ou plutôt la désorganisation de notre perception dès lors qu'elle ne s'appuie plus sur notre monde visuel. Le monde visuel étant le truc solide auquel on peut se fier et au cours de quoi s'organisent nos autres perceptions, mais dès lors qu'on gomme le truc solide et sérieux, quid de ce monde de la perception ? Lui, il dit on va directement vers l'angoisse. Je vais revenir à une question que vous posiez au tout début de cet entretien, à savoir à quel moment vous avez eu peut-être envie d'arrêter. Moi, il me semble que c'est arrivé vers les trois quarts d'heure pour une question d'épuisement physique, car il me semble que j'avais marché assez vite les yeux fermés, mais aussi parce que j'étais rattrapée par une inquiétude, par un rapport à la sécurité, par un rapport au fait que d'un seul coup, tout ce que j'avais laissé comme décision, que je vous avais laissé comme décision pour me faire circuler dans la ville, d'un seul coup, je me disais « wow, wow, wow !» Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment, ou est-ce que ça arrive souvent, les témoignages de guidés qui disent à un moment donné les yeux fermés ou la nuit de laquelle parle François Bresson est un moment d'angoisse ou d'inquiétude. Mmh. Est-ce que c'est présent dans ce qui vous est relaté?
Oui, la question de la peur est présente, la question du risque est présente. Alors souvent, elle est comme, c'est comme jouer à se faire peur. Donc elle est présente, mais pas comme si elle était réelle. D'où aussi l'intérêt, je crois, de ce qu'on appelle une expérience artistique. C'est comme un cadre. On sait que c'est dans ce cadre-là qu'on a peur. Donc ce ne serait pas une réelle peur d'être, je ne sais pas, abusé dans le métro ou quelque chose comme ça. Donc et on le note. On note qu'on a peur dans ce cadre-là. Et du coup, je pense que le risque que certaines personnes ressentent ou la peur qu'ils éprouvent, elle est presque aussi le fruit de tout cet artifice. Je ne sais pas si elle est si réelle. Vous voyez ce que... Je ne sais pas si c'est très clair.
C'est-à-dire que ce serait à l'intérieur d'un cadre que vous jugez sécure. Il faut quand même rappeler que, par exemple, bon, moi, je ne sais pas exactement où j'ai marché dans Aubervilliers, mais il me semble avoir marché au milieu des voitures, sentant passer les véhicules, sentant que je traversais des carrefours. Mais à la limite, ce n'est pas forcément ça qui me faisait le plus peur, ou même que je m'approchais d'êtres dont je ne me serais pas approchée aussi près. Comment est-ce que vous jaugez, justement, la prise de risque entre guillemets dans ce cadre sécure de l'expérience artistique que vous prenez pas seul mais que vous prenez pour nous qui sommes guidés?
Je crois, ouais, peut-être je la jauge pas très bien si je me laisse contaminer à ce point par justement cette espèce d'effet de porosité Moi non plus, bien sûr que j'évalue les distances, bien sûr que je sais qu'on ne va pas traverser si les voitures sont là. C'est-à-dire, c'est pas non plus comme si on décollait complètement. Mais j'ai la sensation qu'en fait, que ce que produit cette balade, c'est un certain état de vulnérabilité. Au sens où, vraiment, on n'est plus du tout auto-défini. Et quand on s'avance vers quelqu'un dans cet état de vulnérabilité, ben les trois quarts du temps, cette personne, elle nous laisse avancer. Et donc, il y a aussi un système de contamination, pas seulement sur moi ou du guide au guidé, mais aussi de l'extérieur, qui tout à coup, en fait, ne fait pas barrière. Donc, les visages se laissent approcher.
Par exemple, donc, me revient en souvenir qu'on s'est arrêté devant un joueur de foot, dans un entraînement de foot, de gars qui étaient là sur une pelouse entraînement ou juste match amical, et que j'ai été très, 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 très près de son visage. Et que c'était normal. Enfin, quand j'ai ouvert les yeux, ça avait l'air normal pour lui.
Oui, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne posent aucune question, qui se prêtent à l'image, comme si on avait un appareil photo. Mais justement, on n'en a pas. C'est-à-dire, on voit quelqu'un avancer vers nous, les yeux fermés, tout tranquillement. Et je crois, et certaines personnes anticipent le moment où les yeux vont s'ouvrir. Certaines personnes ont pensé que c'était comme un nouveau mode de divination et que la personne, les yeux fermés, en fait, était la voyante. Et donc, à Aubervilliers, on m'a demandé si on pouvait prendre un rendez-vous avec la voyante. Donc, il y a tout un tas de projections possibles. Le jeu, la maladie, l'aveugle, mais c'est pas comme si on forçait une distance. Je crois que c'est tout le contraire d'un mouvement intrusif, qui serait en fait beaucoup plus musculaire. Là, il y a quelque chose qui flotte. Et donc, moi, j'ai l'impression que mon travail, c'est de sans arrêt jauger jusqu'où je peux aller. Et donc, ça consiste sans arrêt à pousser une porte et une autre et une autre. On m'a laissé rentrer dans un salon, une vieille dame m'a laissé rentrer chez elle, m'a montré son jardin, m'a dit « faites-lui ouvrir les yeux là ». Et c'est des choses qui ne sont jamais passées par une explication. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Non. Donc, je crois qu'en fait, c'est possible d'enfreindre ces distances si on ne signale pas qu'on le fait. Il n'y a aucun effet d'annonce, en fait. C'est quasi imperceptible. Des fois, on ne nous voit même pas. Je crois que c'est aussi cet état un peu flottant qui fait qu'on pourrait être là ou pas là. Ça ne dérange pas. Et quand on dit « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Ça m'est arrivé de dire juste « mais on veut juste voir. » Mais il n'y a rien à voir ici. Et donc, il peut y avoir des réactions aussi comme ça de... Ou cette absurdité de ne pas avoir d'intention dans la circulation dans la ville peut être perçue comme, oui, menaçante. Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a eu des différences notoires entre les différentes villes au cœur desquelles vous avez fait ces promenades ? J'ai cité tout à l'heure New York, Vilnius, Aubervilliers.
Oui, c'est comme... Moi, je crois qu'on rêve différemment dans les différentes villes. Donc, ce serait un peu du même ordre. C'est-à-dire, les ingrédients qui vont être ceux avec lesquels on compose à Venise sont évidemment pas les mêmes que ceux avec lesquels on compose à Aubervilliers. Après, il y a des hauteurs, il y a des trous, il y a des étroitesses, des largeurs, des visages, des chiens. Tout ce qui va composer les éléments d'une ville, il y a une ville générique quelque part. Et c'est celle-là avec laquelle on travaille, je crois. C'est vraiment composé à partir des dynamiques d'une ville. Et nous, on doit suivre ces dynamiques, se laisser porter. Et donc, les hauteurs à New York vont être folles. Ça, c'est sûr. Donc, ce ne sera pas la même balade. Après, je crois que ce système de coordination, il est toujours le même. Et ce décollement de la réalité urbaine donnée, comme fixe, stable, il se produit. Donc, il y a comme, je ne sais pas, la production d'un espace... plus onirique que réel, vu que c'est vraiment pas une visite guidée d'une ville, quelque part, c'est à la fois très variable et à la fois toujours la même chose.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire dans un espace urbain ?
Bah parce qu'il est hétérogène, que ça travaille vraiment sur cette idée que les patterns perceptifs vont être poussés à se recomposer en permanence, à se réorganiser en permanence, parce que l'environnement change. Qu'on n'est pas le même corps dans du large, on n'est pas le même corps dans du noir. Et la ville, elle offre ça. Elle permet, dans une superficie très très étroite, de passer d'une atmosphère à l'autre. Et ça, ça a été un des retours aussi. C'est pas possible qu'il y ait autant d'espace. Et je crois aussi parce que ça déroule les espaces qu'on contient dans nos mémoires. En fait, on contient tellement d'espace. Et donc, de faire jouer comme ça, cette espèce de... toutes les villes qu'on a déjà vues, avec ces bascules permanentes d'atmosphère à Aubervilliers. Alors, d'un coup, ça déroule une multitude de possibilités d'espace. Je crois que c'est ça, c'est vraiment ce jeu avec la possibilité d'une transformation quasi permanente. Ça bouge, quoi. Et la ville, elle permet ça. C'est vraiment plus compliqué à la campagne ou à la mer. Pour passer de la plage au village, c'est plus compliqué.
Alors, il faut faire des promenades de 7 heures.
C'est quoi. Ça, voilà. C'est
pour
7
avoir plus
d'espace. Exactement, ouais, ouais.
Et la question de l'épuisement se pose. Parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure de marche dans la ville, tout mou dans nos intentions musculaires, on a quand même une fatigue physique qui se pose. C'est un ingrédient que vous intégrez, vous, quand même, dans le fait d'avoir fait que ça dure une heure.
Oui. Je ne sais pas si c'est une fatigue physique ou une fatigue de l'attention.
C'est peut-être une fatigue de l'attention en fatigue physique.
Je crois qu'il y a justement que ça produit un autre régime d'attention qui est beaucoup plus diffracté, qui inclut, je crois, beaucoup plus d'informations, qui est plus élastique. C'est comme un muscle, en fait, l'attention. Et au bout d'une heure, je crois qu'on a épongé, absorbé tellement qu'on est fatigué. Et moi, je sens que mes yeux, ils ne peuvent plus. Que mes mains bougent difficilement, que je suis comme sur un moteur automatique. Et donc, oui, il y a une heure, ça suffit.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Une heure, ça suffit. Nous aussi, on fait ça. Une heure par jour, 16h48 à 7h-ci à peu près. Nos discussions se suspendent et laissent place au récit d'une émotion. Nous rencontrons quelqu'un à qui nous avons demandé de réfléchir à 5 moments marqués par des émotions fortes et de nous les raconter. C'est Rachel Tanguy qui se prête à l'exercice cette semaine. Elle travaille avec des jeunes gens depuis de nombreuses années. D'abord en tant qu'éducatrice spécialisée et aujourd'hui en tant que coordinatrice pédagogique du centre Sésame dans le Val-d'Oise. Aujourd'hui, elle se souvient pour nous d'une lecture déterminante, c'est celle du livre reproduisant l'échange entre le sociologue Stéphane Beau et Younes Amrani qui découvrait la sociologie.
Il est sorti en 2004 et quand j'en ai entendu parler à la radio d'abord et quand je l'ai lu ensuite, il m'a mis une claque parce que je me suis dit c'est exactement ça, évidemment, hein, c'est la parole d'un jeune, un vrai, voilà. Et je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai entendu, moi, pendant des années, quand j'étais éducatrice de rue en prévention spécialisée, et puis et juste avant de commencer à construire l'espace Sésame avec mes collègues. Et je trouvais que c'était un témoignage fort et bouleversant. Et c'est aussi ce livre et certains passages de ce livre qui m'ont donné envie de construire des ateliers de sociologie avec les jeunes à l'espace Sésame. Parce que finalement, ce que dit Younes, mais Stéphane Beau, le sociologue, ou Younes Amrani dans ce livre aussi, c'est que l'arme des dominants, c'est la culture. Donc on a parlé les jours précédents des sorties théâtre, de l'art plastique, etc. Mais c'est aussi la compréhension, en fait, des phénomènes sociaux. En gros, on se disait, quand on doit s'inscrire dans une société, y trouver sa place, son projet de vie social, son projet professionnel... Et bien, quand on a les codes de cette société, c'est quand même beaucoup plus facile de développer des stratégies, de développer du réseau que quand on ne les a pas. En gros, c'est comme quand on commence à jouer à un jeu de stratégie. Si vous n'avez pas les règles du jeu, même si vous êtes très vif et très intelligent, vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes constamment manipulé par ceux qui ont les règles du jeu. Et donc, avant de demander à ces jeunes de faire des efforts, enfin des épreuves, hein, parce que passer devant des employeurs, etc., faire ses preuves... Parler de sa motivation, de ses compétences, ses qualités, c'est pas simple quand on est sorti du système scolaire trop tôt et qu'on a un espèce de complexe en fait, scolaire qui peut se transformer. Ce qu'on pense en complexe social tout court, c'est pas simple. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, faisons de la sociologie avec eux, donnons-leur des codes pour qu'ils apprennent à décrypter petit à petit la société dans laquelle ils vivent et qu'ils puissent, développer des stratégies gagnantes. Et en même temps, en le faisant, parce qu'on le fait depuis des années maintenant, et en le faisant, souvent, je me dis que c'est quand même une sacrée violence. Parce qu'en gros, ce qu'on leur dit, c'est que il y a encore des déterminismes sociaux, même si voilà, on évolue et peu importe sa condition sociale de démarrage, tout est possible en théorie. Mais c'est pas si simple et Younes l'exprime très très bien.
On en lit un extrait ?
Alors, un extrait, oui, il parle un peu de ça, un extrait un peu touchant. C'est Younes qui donc écrit par mail à Stéphane Beau, qui est sociologue. « Cher Stéphane, je vis en ce moment des choses douloureuses et difficiles à expliquer par écrit. Plus j'avance dans ma découverte de la sociologie et du fonctionnement de cette putain de société, et plus je me dis que j'ai une vie de merde. Désolé pour mon langage peu châtié, mais je ne trouve pas d'autres mots. Par moments, j'aimerais être simple, normal, ne pas chercher à comprendre, ne pas vouloir m'en sortir et retomber dans l'insouciance de la vie de quartier. Là au moins, c'est une souffrance collective. Se rendre compte, chaque jour qui passe, du gâchis généré par toute mon histoire m'écœure. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour nous aider à mieux saisir notre vie, à y voir des déterminismes qui ont fait ce qu'on est. Pourquoi c'est si dur ? Je n'ai jamais rien demandé à personne, je ne suis pas quelqu'un de violent, d'intolérant, alors pourquoi j'en suis là, dans une impasse ? L'auto-socio-analyse que l'on fait ensemble est à la fois libératrice, génératrice d'espoir et pourvoyeuse d'instruments, d'armes pour comprendre. Mais elle est aussi terrible, réellement terrible. Je ne suis pas naïf, j'ai conscience que le poids de mon passé pèse encore sur moi et me donne peu de marge de manœuvre. J'ai tellement réprimé au fond de moi, dans le passé, tout sentiment, toute remise en question, qu'aujourd'hui tout ressurgit d'une façon dramatique. Je suis comme tous les autres de mon quartier, amer, plein d'amertume, déçu par un quotidien que l'on n'a pas voulu. C'est vrai que j'ai déconné dans ma jeunesse, que je voulais être quelqu'un, mais après toutes ces années, les illusions sont devenues mirages. Et les mirages se sont évaporés dans toute cette misère sociale, affective et familiale. J'aurais aimé que mon père ne soit jamais venu en France pour gagner quelques piécettes. J'aurais aimé avoir grandi dans les campagnes marocaines, dans le dénuement, certes, mais aussi sans tous ces faux espoirs, ces appels qui sonnent faux, du style « quand on veut, on peut ». Pourquoi c'est si dur à gérer ? Pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on a gagné ? Rien. Et puis d'abord, je n'ai rien voulu gagner. Je souhaitais simplement vivre comme tous les ados, tous les jeunes, sans plus. Oui, Stéphane, je suis pessimiste. Et encore, je ne le suis même pas, car il y aura toujours des gens pour gober leurs conneries, pour croire à la réussite sociale, à l'ascension sociale. C'est possible, et après, qui sait qui reste sur le côté ? On s'en fiche, et on se donne des allures de citoyens motivés. Vous allez me dire qu'on fait ce qu'on veut de sa vie, et je continuerai de répondre non, c'est faux. Je regrette mon intransigeance de mes années de jeunesse, avec toutes ces certitudes de complot contre nous, contre les Arabes. Plus je m'ouvre et plus les contradictions me taraudent l'esprit, plus je m'ouvre et plus des sentiments que je ne connaissais pas m'habitent. Je terminerai par cette affirmation, rien n'est fait pour nous.
Say to jail them before it's too late. Jail all these black market reprobates. Murder, join public combat. Raising the price of foodstuff to higher. Say to jail them before it's too late. Jail all these black market reprobates. Murder, join public combat. They're raising the price of foodstuff to high. Day after day there is a hue and cry. We can't buy food, the price is too high. Black market is rampant through rank and file. Bubble and profiteering is now the style. No use to lament, comment, no wail. From Caesar to Caesar to no avail. Is everywhere to be seen, the law is being contravened. So the police should intervene and jail them before it's too late. Jail all these black market reprobates. Murder, join public and buy. They're raising the price of foodstuff to higher. Say to jail them before it's too late. Jail all these black market reprobates. Murder, John public and buy. They're raising the price of foodstuff too high. Bush doctors are doing a raging trade. To charge for their bushes, they are not afraid. 60 cents for a piece of shadow Benny. A dollar for a twig of Timawi. 90 cents for the leaves of Kuzey Maho. The Dan Bush is growing all in front your door. Is everywhere to be seen, the law is being contravened. Police should intervene and jail them before it's too late. Jail all the black market reprobate.
Buddha, John public and by the raising the price of foodstuff to hire say to jail them before it's too late. Jail all the black market reprobate. Muda, John public and by the raising the price of foodstuff to high.
Mariam Lefkovitch, c'est grâce à vous qu'on entend ce calypso délicieux « Jail them » de Roaring Lion. Pourquoi vous aviez proposé ça?
Mais c'est un son baume qui à la fois raconte une histoire assez acide, mais justement qui permet de l'intégrer parce qu'elle est tellement... Elle se glisse comme ça, elle est, c'est quasi... C'est très sensuel, en fait. Et je l'écoute depuis que je suis très petite, voilà.
Merveilleuse raison de les partager avec oui, des milliers de gens.
C'était pas très raisonné, c'était juste... Tiens, on pourrait mettre ça.
Vous dites qu'elle se glisse, cette chanson, c'est aussi quelque chose que vous faites dans ces balades où vous guidez les gens les yeux fermés dans les villes. Vous vous glissez, tout à l'heure, vous avez même utilisé l'idée de fouiller dans la ville. Est-ce que c'est une audace, celle de pousser de plus en plus de portes ou de rentrer dans de plus en plus d'espaces différents que vous avez vu croître?
Oui. Oui, je crois que c'est vraiment cette pratique qui a produit ça chez moi. Après, cette dimension scopique dont je parlais au tout début...
Le fait d'avoir envie de voir.
Oui, de chercher à voir. Ça m'amène à pousser des portes. Mais j'ai l'impression que ce que fait la balade, c'est qu'elle me protège. Je suis en fait protégée par la vulnérabilité de l'autre.
Parce que vous la protégez,
oui.
La vulnérabilité de l'autre.
Oui, et on tient cet espace et c'est... C'est cet espace qui nous permet de rentrer. Donc c'est une audace. L'audace, c'est presque un effet, un double effet. Mais je n'y vais pas avec l'intention d'être audacieuse. J'y vais parce que j'ai besoin d'un trou maintenant. J'y vais parce que là, je sens qu'il y a un noir. Donc c'est un appétit du moment pour le noir et il est là. Donc s'il faut que je passe certaines portes, faire quelques signes, s'il y a des gens, etc., alors je vais m'autoriser à le faire. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement désinhibante.
Cette balade.
Mais est-ce que c'est moi qui suis désinhibée? Je crois pas. C'est vraiment la pratique qui produit des choses. Et donc je me laisse porter parce qu'elle va me faire. Et heureusement qu'il y a quelqu'un les yeux fermés qui est là. Et on est poussé par le désir de montrer quelque chose à quelqu'un ou de lui faire sentir le noir. Et ça, il faut juste se laisser pousser.
Si vous voulez faire partie de ces gens les yeux fermés, vous faites donc, Mariam Lefkovitch, des balades dans le cadre du nouveau festival. Ce sera en juin à Paris et à Aubervilliers. Ce sera en mars. On pourra s'inscrire, j'imagine, via les laboratoires d'Aubervilliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
De rien.
Vous pouvez refaire la balade les yeux fermés en vous rendant sur franceculture.fr et réécouter cette émission ainsi que toutes celles qui ont trait à l'expérience et même celles d'avant. On poste aussi sur franceculture.fr les bibliographies, les références musicales et plein d'autres surprises. Sur ce site, nous pouvons nous écrire ainsi que via Facebook ou Twitter. Merci beaucoup pour tous vos messages passionnants, aimants parfois. Critiquant parfois, c'est super. Merci à Romain Debec-de-Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée aujourd'hui par David Jacuboviez avec à la technique Pierrick Monsigny.